France Inter.
Disney a choisi de manière opportuniste et tout à fait logique et rationnelle de basculer en mode cinéma pour pouvoir diffuser ses films plus tôt dans la chronologie des médias. On a un petit sujet, parce que si Disney est à 9 mois pour 35 millions d'euros, il y a un sujet pour Canal+, des 220 millions d'euros à 6 mois. On me dit c'est une menace, tu le feras jamais, etc. Mais en fait, on est à l'étude.
Nous sommes au Sénat, la commission de la culture. Le PDG du groupe Canal+ n'est pas content du tout. Oh là là, et oui, il menace Maxime Saada de couper dans le robinet l'argent que Canal injecte dans le cinéma français. 220 millions d'euros pour à peu près autant de films et coproductions par an. Canal, c'est le premier financeur du 7e art. Et en échange de son soutien, la chaîne peut diffuser les films 6 mois après leur sortie en salle, donc avant les autres. C'est ça, la chronologie des médias. Mais cette semaine, Disney a donc brutalement rallumé la lumière dans la salle. Changement de chronologie, justement. Disney va pouvoir diffuser les films plus tôt qu'avant, 9 mois après la sortie. Et pour cet avantage, il ne paierait que 35 millions d'euros. Voilà pourquoi le boss de Canal voit rouge, la menace à l'étude, c'est de ne plus mettre sur la table que 50 millions. Alors au fond, derrière cette bataille, il y a une question. Est-ce que le secteur du cinéma est prêt à couper le cordon ? Est-ce que lui aussi a un plan avec Disney, avec Netflix, pour ne plus dépendre d'un seul mécène ? Vivement la soirée des Césars, hein. Ça sera dans un mois, il y a souvent de grandes envolées sur les intermittents, la réforme des retraites, le gouvernement. Mais jusqu'à présent, acteurs, réalisateurs, producteurs, pas touche aux bienfaiteurs, au groupe de Vincent Bolloré. Et bien cette fois, on guettera la déclaration aux dirigeants de la chaîne Chicha, sur la fin peut-être de l'amour ouf.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue jusqu'à 10h, nous sommes ensemble dans votre magazine de l'économie. Une émission que je vous propose avec Valentin Pérez, mon coproducteur, les réalisatrices Hélène Bizio et Céline Hilla, Joseph Ascal, notre chasseur de son, c'est Rémi Sistiaga qui signe les mixages et en face de moi, derrière la vitre de la régie, Titouan Labarre nous met à l'antenne. L'invité du Mag Éco, ce matin nous recevons le directeur général du groupe Bouygues, un de nos géants du CAC 40, 56 milliards de chiffre d'affaires, plus de 200 000 salariés. Alors des questions beaucoup sur le nouvel ordre économique mondial, sur la santé de l'économie française bien sûr, et nous parlerons aussi, c'est l'écho comme on l'a vu, de TF1 et des médias. À ce sujet, vous avez vu que nos amis des France Bleu et de France 3 Régions partagent maintenant une même identité, c'est le réseau ICI. Et dans le privé, beaucoup d'attention aussi portée aux régions avec la future chaîne du groupe Ouest France qui sera sur le canal 19, avec BFM qui continue de se déployer dans les villes. Et puis il y a toutes les télés locales. Le nouvel élan des télévisions dans les territoires, et ben on verra cela avec notre reporter Anaël Verzo. Un tour aussi au boulot, bien sûr, comme tous les samedis, avec Sandrine Foulon. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra, bonjour tout le monde.
De plus en plus de questions pour vous dans les mails qu'on reçoit à On n'arrête pas l'écho. Et ce matin, Sandrine, vous répondez à notre auditrice Flore.
Oui, Flore est super contente, elle vient d'être recrutée, mais son employeur lui dit que les nouveaux arrivants n'ont pas droit au télétravail. Peut-on faire des différences entre les collègues ? Je vous dis ça tout à l'heure.
Ah bah alors, on attend avec impatience, juste avant 10h, la réponse de Sandrine Foulon à Flore. Et tout de suite, on démarre avec le débat éco de la semaine. Elles sont avec nous, Anne-Sophie Le Chevalier de Libération. Salut Anne-Sophie.
Bonjour Alexandra.
Et Leïla Aboud du Financial Times. Hello Leïla.
Bonjour à tous.
Alors, on avait déjà eu en décembre les coups de gueule des patrons de Total et d'EDF contre les normes et les règles. Eh bien, ces derniers jours, la fronde a pris de l'ampleur, l'instabilité politique, la fiscalité. Voilà les objets du courroux de certains grands patrons, Bernard Arnault en tête, avec peut-être, à demi-mot quand même, une menace de délocalisation. Leur colère est-elle justifiée ? Leur colère est-elle partagée ? C'est le débat.
Aux USA, on vous accueille à bras ouverts.
Bernard Arnault, PDG de LVMH.
Les impôts vont descendre à 15%. Quand on vient en France, on voit qu'on s'apprête à augmenter les impôts de 40% sur les entreprises qui fabriquent en France. À peine croyable. Donc, pour pousser la délocalisation, c'est idéal.
Ça s'appelle du chantage.
Frédéric Souillot, secrétaire général de Force Ouvrière.
Comme d'habitude, on va nous parler du coût du travail, on ne nous parlera pas du coût de la productivité. Quand aujourd'hui on nous dit qu'on taxe trop, nous on dit conditionnalité des aides publiques aux entreprises. S'ils délocalisent, eh bien il va falloir qu'ils rendent l'argent public.
La France est championne d'Europe des prélèvements obligatoires.
Florent Ménégo, directeur général de Michelin.
Donc bien sûr qu'on peut augmenter les taxes sur les industries en France, mais en fait il ne faut pas s'étonner si après les industries vont aller ailleurs.
Moi je sens la colère monter.
Patrick Martin, président du MEDEF.
Tout ça n'est pas sans conséquence, ce ne sont pas des humeurs. Ça se traduit dans des comportements d'achat, d'investissement, d'embauche ou de débauche. Les conséquences, c'est que ceux qui peuvent partir, partent. Et ils ont raison.
Chacun doit prendre part aux efforts que nous demandons de façon temporaire aux très grandes entreprises françaises.
Sophie Prima, porte-parole du gouvernement.
Nous savons les risques qui sont liés car nous sommes un gouvernement qui est pro-entreprise. Et donc, passer cette mauvaise passe, quand on aura un budget, on sera dans le travail pour revenir sur une politique qui soit une politique pro-business.
On a l'impression qu'on a deux planètes, en fait.
Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE.
On a les États-Unis qui vivent avec une croissance à capot ouvert, avec des déficits commerciaux gigantesques, déficits publics, et qui continuent à proposer des baisses d'impôts. Et du côté européen, et notamment français, on a ce déficit avec lequel on est en difficulté. Et puis à ça s'ajoute la politique commerciale, les droits de douane qui vont augmenter, la sortie des accords climatiques, les prix de l'énergie. Donc la divergence, elle est gigantesque. Et en fait, Trump, il met un coup de pied énorme dans la fourmilière, là.
Et est-ce que les patrons français ont peur d'avoir trop mal ? Anne-Sophie Le Chevalier, je me tourne vers vous. La colère des patrons, est-ce qu'on peut se faire la photo comme d'habitude ? Qui dit quoi ?
Alors, on a entendu Bernard Arnault, c'est utile, je pense, de rappeler un peu de contexte. Donc, c'était mardi dernier, il présentait les résultats de son groupe LVMH. Il dit, une fois n'est pas coutume, je ne vais pas vous annoncer des résultats records. Il a annoncé à cette occasion-là une baisse de 14% de son résultat opérationnel courant, qui atteint tout de même 19,5 milliards d'euros. Et il explique ses performances par, nous avons été confrontés à une faiblesse du marché en Asie, aux États-Unis avec une période électorale incertaine, qui n'a pas facilité les choses, et l'Europe s'en est plutôt bien sortie. Et finalement, ce qu'on retient, c'est le passage sur l'Europe. Utile de mentionner aussi que les actionnaires peuvent se rassurer. Lors de l'Assemblée Générale en avril, LVMH proposera un dividende de 13 euros par action, le même montant que l'an dernier.
Bon, donc, c'est le contexte.
Donc pourquoi il s'intéresse à l'Europe ? Donc il rentre des États-Unis, encore du contexte où il a assisté en famille, on l'a vu sur les photos, à l'investiture de Donald Trump. Et il rentre et il fait mine de découvrir une mesure qui est dans le budget depuis le mois d'octobre, qui est la surtaxe temporaire sur l'impôt sur les sociétés qui est discutée en ce moment. Et donc, ça, c'est d'ailleurs une surtaxe
qui a été votée hier,
un accord entre les parlementaires. Ouais. Exactement. Donc, et c'est quoi cette surtaxe ? C'est les 440 plus grands groupes français qui, pendant un an, pour enflouer les caisses de l'État, paieront en tout, on estime, le rendement de cette mesure à 8 milliards d'euros cette année. Et LVMH, selon les calculs de son directeur financier à l'automne, paierait 700 millions d'euros à ce titre.
Il va probablement être le premier payeur de cette taxe.
Oui,
LVMH. Okay.
LVMH.
Ok.
Oui.
Donc la mèche était allumée. Et alors ensuite, on a eu une succession de déclarations, et notamment le patron du MEDEF qui a justifié, enfin on vient de l'entendre, hein, ouais, qu'ils avaient raison de faire ce chantage à l'emploi.
Alors est-ce qu'il y a un chantage à l'emploi ? Comment vous avez reçu cette colère ? Qu'est-ce que vous avez retenu, Leïla Aboud, avec votre œil du Financial Times ?
Déjà, Bernard Arnault, il a l'habitude, pendant les résultats annuels, de faire des petits commentaires sur l'état de l'économie en France et l'Europe. Il fait souvent ça, et il fait souvent un rappel de combien d'impôts LVMH paye en France. Tout, il a l'habitude de faire ça. Cette année, je pense qu'il a fait plus de rentre dedans. Et le contraste avec les États-Unis, ça fait particulièrement mal en ce moment. Alors du coup, ça a pris une ampleur médiatique.
Mais il n'est pas tout seul. On a entendu.
Il n'est pas tout seul.
Vous avez retenu qui vous avez. Il y a aussi Florent Ménégo de Michelin.
Oui, le patron de Michelin qui a fait une audition devant le Sénat récemment où il a fait vraiment une critique vraiment très chiffrée et factuelle, sans s'énerver, sans être trop dans la polémique, où il montrait que la compétitivité de Michelin, qui est un des entreprises un peu très emblématiques de la France, où ils produisent encore, quand même ici, ils ont des usines, où même depuis 18 mois, 2 ans, l'équation économique pour eux en France devient beaucoup plus compliqué. Il donne plein d'exemples, le coût du travail, le delta entre ce que l'employeur paye et ce que le salarié gagne. Ils disent que ces chiffres sont trop éloignés. Après, il y a aussi le coût de l'énergie qui le fait très mal. En gros, l'électricité dans l'Union européenne coûte le double qu'aux États-Unis et le gaz, c'est plus que le double. Alors du coup, pour son business à lui, c'est important. Après, je pense qu'il est emblématique des industriels qui ne sont pas contents en ce moment.
Des exportateurs. Non, enfin, je veux dire, Bernard Arnault, il exporte, Michelin exporte. En revanche, on a eu Leclerc, Michel-Édouard Leclerc.
Oui, ils ne sont pas tous d'accord avec lui. Voilà. Alors, Michel-Édouard Leclerc, il a dit sur LCI, ce n'est pas forcément positivement impactant d'avoir un des hommes les plus riches de France qui dit, si ça ne le fait pas, je quitte le pays, assurant qu'aucun patron des centres Leclerc après, ferait un tel chantage. Précisez quand même que les centres Leclerc ne paieront pas la surtaxe. Et donc, on a le droit hier à une rectification de Bernard Arnault.
Ou une passe d'armes.
En tout cas. Qui dit, je n'ai bien entendu jamais dit que nous allions délocaliser le groupe LVMH, et qui renvoie Michel-Édouard dans ses cordes en disant, puisqu'il semble vouloir défendre les PME françaises, je lui conseille de vendre dans ses supermarchés davantage de produits français. Et d'arrêter de pressuriser les fournisseurs français. Bon, tout ça, ça montre aussi que c'est pas un patronat qui est complètement uni.
Non, mais ça montre qu'ils sont saisis cette occasion aussi là
pour ressortir leur discours. Somme toute assez classique sur le fait que sur le poids entre guillemets de la fiscalité en France.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que le ministre de l'économie, Éric Lombard, finalement, il a une bonne question. Il dit, mais pourquoi maintenant, Laïla Aboud?
À mon avis, il y a trois raisons. Il y a quand même le retournement économique en France qui est réel. Il y a même eu un recul du PIB au quatrième trimestre. Cette année, ça ne va pas être très, très sympa non plus parce que les coupes budgétaires vont mécaniquement impacter la croissance. Après aussi, l'Europe ne va pas très bien. Alors, du coup, l'Allemagne en récession, première partenaire économique de la France. Voilà, il y a un retournement éco. Après, je pense aussi, il y a la stagnation politique en France, où on est un peu enlisé depuis la dissolution. Et le contraste avec ce qui se passe aux États-Unis, avec l'élection de Donald Trump, où il fait une rafale de mesures dans ses premières semaines de présidence.
C'est aussi simple que ça. Je claque des doigts et ça avance.
Presque. Après, ils vont en avoir plein qui sont challengés par les États ou les tribunaux, mais même, enfin, je pense que c'est aujourd'hui les nouveaux droits de douane sur le Canada et le Mexique vont venir effectifs. Après ça aussi, c'est peut-être un peu fou comme idée, mais alors, du coup, les États-Unis sous Trump, c'est pas qu'un Eldorado économique. Mmh. On va voir s'il fait aussi du mal.
Mais en tout cas, trois raisons. Retournement économique en France et en Europe, instabilité politique en France, le contraste avec Trump qui, lui, va vite, c'est ça que vous retenez.
À mon avis, hein.
Anne-Sophie.
Moi, j'en vois deux autres aussi. La première, c'est qu'on peut quand même remarquer qu'ils ne se sont pas fait entendre, ces patrons-là, aussi fortement à l'automne. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mesure était connue, la mesure est écrite par Michel Barnier, Premier ministre de droite.
Mais en off à ce moment-là.
Il parlait à tout le monde. Mais alors, il disait justement qu'ils étaient très compréhensifs. On peut citer Patrick Martin, toujours le même, en septembre, qui disait nous sommes dans une attitude constructive à l'égard de ce gouvernement. On est prêt à discuter d'une hausse d'impôts des entreprises à deux conditions. Première condition, que l'État fasse des efforts bien supérieurs. Là, on peut dire
mais
que
là,
c'est
là,
le cas.
Fait moins.
Et ensuite, l'effort demandé n'enraye pas dans la dynamique de l'investissement et de création d'emploi. Et donc, en fait, cette mesure-là, ça passait. C'était les autres mesures envisagées qui leur convenaient moins. Six mois plus tard, le gouvernement a été censuré. Et puis, il y a un changement depuis cette époque-là. C'est quand même qu'on a un nouveau gouvernement, qu'on a à Bercy un ministre qui s'appelle Éric Lombard.
Qui n'est pas très apprécié du milieu économique.
Qui est un ancien patron, il faut quand même le dire. Et qui est macroniste de gauche, c'est ce qu'il dit lui-même, et qui parle avec le Parti Socialiste. Ce qui est quand même un changement par rapport aux années Le Maire qui ont duré longtemps. Moi, à mon avis, il y a aussi dans leurs propos un tir préventif, parce qu'ils savent qu'une fois qu'on aura fini ce budget, on a le budget 26, où l'effort budgétaire à fournir, on le sait, sera important, et donc peut-être les entreprises seront à nouveau mises à contribution. On a aussi, et ça, je pense que c'est important de le dire, un mécanisme d'anti-optimisation pour les patrimoines les plus élevés, et souvent, ce sont les mêmes personnes.
Ça, c'est dans le PLF aussi, dans le projet budget.
C'est annoncé pour, au plus tard, le PLF 26.
Elle est là.
Je pense aussi que ils savent que le, enfin, ils redoutent que le, la surtaxe sur les grandes sociétés va pas durer un an, parce que comme ça économise, enfin ça génère 8 milliards.
Mais pour le coup, elle devait durer 2 ans. Et Eric
Oui, mais qui croit ça? Honnêtement, qui croit ça? Eux, ils croient pas. Après, on va attendre.
Bah, pour l'instant, enfin, moi, c'est ce qui est écrit. On verra bien.
Ouais. Ok, bon, mais ça crée un trou de 8 milliards si on enlève l'année prochaine. Et après, je pense aussi, il faut quand même relativiser. On ne va pas avoir une vague de délocalisation à cause de ce budget. C'est un coup de gueule. Ils essayent de refléter aussi, de faire porter cet enjeu de la compétitivité de l'Europe, qui pour moi est toujours le sous-jacent des vrais problèmes en Europe et pas uniquement en France. Et voilà, ils alertent un peu là-dessus. Aussi pour ça.
Moi, je voudrais quand même juste très rapidement sur ce que vous racontiez, ce que vous décriviez par rapport à Trump. C'est quand même assez effrayant, en fait, de voir les patrons français certains à adouber la politique de Trump juste au nom des profits et de la dérégulation. Ils mettent complètement, enfin, ils ne parlent pas de tout le reste de la politique de Trump sur tous les autres aspects sociétaux et économiques, d'ailleurs.
Vous pensez à qui?
Je pense, il y a eu quelques déclarations. Je peux citer l'ancien président du MEDEF, Pierre Gattaz, qui a posé cette question en évoquant la fiscalité et la réglementation française. Faudra-t-il un Donald Trump, un Elon Musk ou un Javier Milei en France pour arrêter ce délire?
Oui, même Valérie Pécresse a dit ça à Comité de la Hache. Elle a appelé pour ça, alors du coup...
Oui, enfin, voilà, elle n'a pas adoubé Trump. Enfin, je veux dire...
Non, mais... voilà, moi, je ne vais pas défendre Trump, ni ses politiques anti-climat ou anti-sociétaux, anti-woke, ce n'est pas du tout mon sujet. Si on reste sur le champ de l'économie, enfin, parler de la dérégulation en France, je sais que ça ne plaît pas, mais c'est un vrai sujet.
Allons-y. L'Europe qui dit, voilà, l'Europe dit, on va aller vers une nouvelle boussole pour la compétitivité des entreprises.
Oui, mais tout ça aussi est basé... La réponse de Bruxelles. Ouais. La réponse de Bruxelles, ça vient aussi du rapport Draghi, dont on parle beaucoup ces derniers mois, qui dresse un portrait assez noir de la compétitivité en France. Après, il y a un chiffre que j'ai trouvé qui m'a impressionné dans ce rapport, c'est que l'Union européenne a créé 7 fois plus de lois et réglementations entre 2019 et 2024 par rapport aux États-Unis, c'est pas rien. Alors du coup, quand on parle de la déréglementation, la surnorme, etc., les patrons, ils ont raison. Voilà, on peut ne pas aimer ça, mais c'est une vérité.
Bon, et est-ce que vous croyez au choc de simplification? Est-ce que ça va arriver à cette nouvelle boussole pour la compétitivité, par exemple, assouplir les règles de concurrence? Ça veut dire créer des grands champions. C'est
ça, je pense qu'ils vont essayer, ils vont faire sur la concurrence. Ils ont déjà envoyé plein de signaux que pour les fusions-acquisitions, ça va être un tout petit peu plus facile que pendant la dernière commission. Après, la boussole de compétitivité, c'est une espèce d'image que von der Leyen, la présidente de la commission, a mis sur un écran. Honnêtement, ça me désespère, c'est un truc qui aurait pu être dessiné par les consultants. C'est pas ça qu'il faut faire, il faut être plus ambitieux, plus créatif. C'est pas un slide avec une boussole dessus qui change la compétitivité de l'Europe.
Anne-Sophie.
Et surtout, par rapport à l'Europe, on ne voit pas très bien où en est la relance et l'appel de Draghi, vous vous souvenez, dans son rapport sur un investissement massif pour que l'Europe reprenne.
Exact.
Et ça, il n'y a vraiment pas grand-chose dans la boussole là-dessus. Et puis, peut-être pour finir sur la fiscalité, les patrons donnent toujours le chiffre de la fiscalité en France et en Europe, mais particulièrement en France, très élevé. Jamais ils donnent le chiffre des aides aux entreprises. On en a beaucoup parlé par le passé. Il y a les aides pendant le Covid, mais il y a les aides habituelles aux entreprises qui, elles, atteignent des niveaux entre 99 et 200 milliards d'euros. On ne sait pas exactement le chiffre.
Là, vous parlez de la France
en
seulement
France, ouais. En particulier. Mmh. Et ça, c'est jamais un chiffre qui est mis en face. Elles sont accordées sans conditionnalité. Et dès qu'on veut essayer justement pour redresser le budget de taper dedans, il y a toujours un tir de barrage.
Anne-Sophie Le Chevalier et Leïla Aboud sur la colère des patrons français est-elle justifiée? Elles ont fait le débat dont n'arrête pas l'écho.
Et déindustrialiseront un
pays.
L'écho, comme elle tourne ailleurs, elle tourne très vite, dans le secteur de l'intelligence artificielle qui a été bouleversée par la start-up chinoise DeepSeek. Vous n'avez pas pu passer à côté de cette actu. Alors peut-être que finalement, pour développer des IA, on n'a pas besoin de centaines de milliards. Ça réécrirait toute l'histoire. Autre question posée par DeepSeek. Est-ce qu'on peut croire à une IA frugale en énergie? Eh bien, aux États-Unis, les pétroliers parient toujours le contraire.
I think the news that people are reacting to underscores how competitive, global, and urgent the race for AI leadership is. Powered by abundant
American energy and natural gas is an essential part, I think, of that equation going forward.
C'est le patron de Chevron, Mike Wirth. Il parle de la course à l'intelligence artificielle, compétitive, mondiale, urgente. Et l'énergie, dit-il, est un facteur clé dans cette bataille. Chevron veut désormais produire de l'électricité grâce au gaz américain. Bonjour Loïc Loury.
Bonjour Alexandra, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes correspondant de France Inter aux États-Unis. Chevron, donc la deuxième plus grande entreprise gazière et pétrolière chez vous, a donc annoncé qu'elle veut construire des centrales électriques alimentées au gaz pour les data centers. Et Loïc, chez les Big Oil, dire qu'on veut produire des watts maintenant, ça c'est un vrai changement de stratégie.
Oui, c'est un pari sur l'avenir et sur la place toujours plus grande qu'occupe l'IA. Un chiffre pour s'en faire une idée, 5% de l'énergie aux États-Unis alimentait des data centers en 2023, ce sera 12% en 2028 selon une étude récente. Chevron, deuxième producteur américain de gaz et de pétrole, veut une part du gâteau. Le groupe a donc trouvé des partenaires et prévoit de lancer une première centrale à gaz avant fin 2027, directement branchée sur l'un de ces data centers si gourmands en énergie. Des projets sont à l'étude dans le Midwest, le Sud-Ouest et l'Ouest du pays. Chevron compte produire dans un premier temps une puissance de 4 gigawatts, assez pour alimenter 3 millions de foyers.
Loïc, ça c'est un nouvel exemple de la façon dont l'intelligence artificielle remodèle l'économie américaine.
Oui, car Chevron n'est pas seul sur ce créneau, loin s'en faut. Exxon, le premier des grands pétroliers américains, lui aussi dit vouloir construire ses propres centrales pour alimenter des data centers. Big Oil, jusque-là, estimait cette stratégie peu rentable et préférait se concentrer sur le forage et la transformation du gaz et du pétrole. Mais la demande en énergie issue de la tech sur fond de course à l'IA est en train de changer la donne. Microsoft, Google et Amazon l'an dernier ont ainsi commencé à miser sur le nucléaire, mais il n'y en aura pas pour tout le monde et le gaz naturel semble avoir le vent en poupe comme alternative numéro un. Et tant pis pour les vœux pieux écologiques des géants de la Silicon Valley, l'intelligence artificielle s'appuiera aussi sur les énergies fossiles.
Loïc Loury avec nous de New York. « 9h35 sur France Inter, dans moins de 10 minutes, l'homme à la tête du groupe Bouygues, Olivier Roussat, sera dans ce studio, construction, immobilier, services énergétiques, télécom. On va parler du nouvel ordre économique mondial, de la santé économique de la France, mais on va aussi parler de télévision. » Le monde de la télé va connaître un grand chambardement dans les mois qui viennent. Pour nous, les téléspectateurs, il va falloir retenir la nouvelle organisation des boutons de la télécommande. Fin février, dans un mois, arrêt de NRJ 12 et de C8, puis deux nouvelles chaînes vont faire leur apparition. D'abord celle du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, et puis en septembre, celle portée par le groupe Ouest France. Alors la promesse de cette dernière chaîne, c'est une chaîne nationale, mais ancrée dans les territoires. Et en ce moment, les régions, les villes, elles sont l'objet de beaucoup d'attention. Peut-être un nouvel élan pour les télés locales. Écoutez, ce matin, on retrouve notre reporter Anaël Verzo en Bretagne. Nous sommes à Téveraine, inaugurée en 1987 par François Mitterrand. Et là, pour les journalistes, l'actualité, évidemment, ce sont les inondations. La conférence de rédaction, elle a commencé à 9h.
Il est 9h, c'est le début de la conférence de rédaction. Il y a 10 journalistes autour de la table. Et aujourd'hui, c'est une édition spéciale suite aux crues qu'il y a eu ici à Rennes et qu'il y a toujours d'ailleurs dans tout le secteur. Ça commence.
Il y avait un papier intéressant ce matin sur ces communes, comment elles sont assurées, comment on peut aborder ça. Je lisais ce matin des conseils à donner aux gens de bien garder leurs factures des objets qui peuvent être inondés pour les assurances.
Ouais, ouais.
Est-ce que vous avez une idée d'intervenant ou de...
Un assureur.
Ouais, les assureurs locaux, ça peut être intéressant.
Ça peut être intéressant.
Est-ce qu'on n'est pas un point trop tôt sur les assurances
pour aujourd'hui?
On va avoir un sujet Redon.
Donc Saint-Nicolas de Redon, le Leclerc, est fermé depuis hier. En 95, ils avaient subi pareil une inondation. Toute la nourriture était au niveau de l'eau. Là, ils veulent éviter. Donc, ils surélèvent tous les étals de nourriture. Tu disais, toi, Christophe.
On était hier et tout le monde y est, quoi. Tous les médias nationaux.
Je pense que c'est le point. Ouais, hier, c'est vrai que très vite après moi, TF1, France Bleu, ce sera arrivé. Enfin, oui, c'est le point chaud. Ouais.
Ah, ouais, ok.
Est-ce qu'on n'oublie pas des bleds, tu vois, hors Pont-Riant, Guipry?
Il y a tout ce qui est à Montlys.
C'est peut-être pas mal aujourd'hui d'aller voir des communes du Nord.
Et il n'y a pas, des, je sais pas moi, des marchands de kayak qui en vendent plus ou des trucs comme ça?
Ah ouais, si, c'est vrai.
Des vendeurs de bottes.
Ah, faut appeler Décathlon. Tiens, on peut appeler Décathlon de béton. Je la connais bien, la directrice, je lui ai demandé si elle vend des kayaks.
Champ de pile aussi.
Bah là, je pense que c'est le rayon pêche, ouais, qui doit être pris.
Le rayon pêche, ça doit cartonner.
Ok, ok. Bah merci tout le monde.
Merci.
Voilà la régie et le studio. Waouh. Avec du parquet au sol, un canapé. C'est grand, c'est sympa. Ah, un deuxième canapé vachement long.
Mmh. Ouais, on voulait quelque chose un peu zen, un peu qui mette en confiance. Bonjour.
Stéphane Beignet, je suis enchanté. Directeur d'information de TVRF.
Là, vous êtes 25 ici à la rédaction?
Oui, 25, c'est une très très belle rédaction. Ce souci que l'on partage, c'est l'ancrage local, l'ancrage du terrain, des vrais gens. Et puis il y a une phrase que j'aime bien citer, c'est « connaître son territoire pour comprendre le monde ».
Vous avez combien de téléspectateurs ?
Là, on est sur un bassin d'1 480 000 personnes. On sait que le journal, il est regardé à peu près par 60 000 personnes. Donc si vous prenez les multi-rediffusions, vous pouvez arriver très facilement à 400 000 personnes.
Merci d'être avec nous sur TVR, édition spéciale inondation.
À la tête de TVRN, on trouve une femme, Aurélie Rousseau. Depuis 3 ans, elle co-préside aussi Local TV. C'est le syndicat national des télévisions locales. À l'exception des 10 antennes territoriales de BFM, cette organisation représente toutes les chaînes locales françaises, 7 à Limoges, Télébocal, Maurienne TV ou encore Moselle TV. 1 200 000 téléspectateurs regardent chaque jour leur programme.
Les télévisions locales, elles sont financées en partie par les collectivités locales de leur territoire. Et pour le reste, c'est issu de revenus privés qui sont aussi sur notre zone. On est vraiment sur des financements locaux. La pub, c'est de la pub avec les acteurs économiques du territoire. C'est complété par une régie nationale, mais qui malheureusement génère un chiffre d'affaires très restreint. On est beaucoup plus difficile à commercialiser que la PQR, par exemple, parce que nous ne couvrons pas toute la France. Vous imaginez, pour un annonceur, acheter certaines zones mais pas d'autres, quand il s'agit d'une marque nationale, bah pour eux, c'est beaucoup moins intéressant. Donc on essaye de combler cela, notamment travailler aussi avec BFM sur des questions de régie pour avoir une offre commerciale qui soit commune et qui soit plus attractive au niveau national. Nos principaux concurrents au local, ce sont les GAFA. C'est pas la concurrence entre nous, les médias. En fait, la pub, elle est aussi captée par ces plateformes au niveau local. Ça peut paraître étonnant, mais c'est vraiment le cas. On dit qu'ils représentent plus de 60% du marché aussi au niveau local. Une entreprise, même locale, elle a tendance à vouloir essayer du Facebook, du Google, etc. On a tous une responsabilité vis-à-vis du territoire. Au moment de choisir le fléchage de leur budget, communication, pub, promo, il faut penser aux médias des territoires parce que sans leur présence à ces acteurs économiques, nous, on ne survivra pas.
En 2025, l'offre d'information territoriale continue de se déployer. Dans l'audiovisuel public, depuis le 6 janvier, les antennes de France 3 Régions et des radios France Bleu se sont rapprochés sous un même nom, ICI, une marque qui souligne la volonté de proximité. Dans le privé, le groupe BFM, détenu depuis l'été dernier par Rodolphe Saadé, le patron de l'armateur CMA-CGM, veut continuer à développer ses antennes locales. Arnaud de Courcelles est leur directeur général.
Les BFM locales marchent bien. On est aujourd'hui à 6 millions de Français qui consomment des BFM locales. On est en augmentation de 6-7% sur un an. On peut vraiment faire mieux parce qu'on sent bien qu'il y a un ancrage qui se met en place petit à petit. Il faut le temps aussi. Il y a des chaînes qui sont très jeunes. Hein. Il y a des chaînes qui ont à peine 2 ans. Et je pense que c'est aussi important d'adapter aussi un peu les formats et le modèle. Et donc, c'est là où je suis assez convaincu qu'on peut venir avec des nouveaux modèles de commercialisation, des nouveaux modèles éditoriaux qui peuvent nous aider à faire une meilleure audience et mieux commercialiser. Si on a des formats sur BFM Business, des émissions sur BFM Business qui marchent bien, qui mettent en avant les entreprises locales, pour être très, très concret, je suis assez convaincu que ces émissions-là peuvent se déployer en local. Et aujourd'hui, elles sont générateurs de chiffres d'affaires importants et donc elles peuvent bénéficier et exister sur les locales. Il y a ce besoin, il y a cet intérêt très fort éditorial de parler de la France et ça, vraiment BFM TV, on le voit bien, de plus en plus se déploie sur parler de l'actualité française vraiment dans son hyperlocalisation et évidemment les BFM locales sont intéressantes sur ce point-là. Je vous prends un exemple très concret. Il y a trois semaines, vous avez sûrement suivi cette actualité triste mais très importante sur cet accident de tramway à Strasbourg. Bah, cet accident de tramway à Strasbourg a été couvert pendant 4 heures sur une spéciale sur BFM TV par les équipes de BFM Strasbourg, BFM Alsace, BFM Strasbourg. Ils ont été les premiers devant l'AFP, devant les autres chaînes locales et nationales à être présents sur place. Et bah, ça, c'est grâce au local. Et je pense que c'est vraiment ce maillage-là qui permet à la marque BFM de grandir, de se déployer sur toute la France.
À partir du 1er septembre, une autre chaîne nationale devrait se faire l'écho des informations en direct des régions. C'est OFTV, un projet porté par le groupe Ouest France. Cette télévision apparaîtra sur le canal 19 de la TNT, comme l'a annoncé le 12 décembre l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel. C'est un choix que défendait son président, Roch-Olivier Maistre, il y a quelques jours sur France Inter.
Il y a deux acteurs nouveaux qui vont rentrer, dont un porté par un grand titre de presse quotidienne régionale, Ouest France. C'est la première fois que ça se produit dans notre paysage.
À quoi tient cet engouement pour des télévisions de proximité ? Je me rends dans les locaux de la Fondation Jean Jaurès. Le journaliste David Medioni y dirige l'Observatoire des médias.
Je crois que l'intérêt économique pour ces groupes, il est double. D'abord, c'est l'idée d'aller conquérir un public qui, aujourd'hui, a déserté les médias traditionnels. Et donc, finalement, de les conquérir ou de les reconquérir avec une dimension locale, avec une information de proximité et servicielle, c'est un intérêt économique parce que, finalement, c'est un public qu'on peut ensuite faire venir sur d'autres supports du groupe. Je pense notamment à Ouest France, par exemple, ou d'autres. En tout cas, il y a cette idée que, finalement, à travers un nouveau média, à travers un média local qui nous parle et qui est concernant pour nous, on va pouvoir aussi créer des synergies éditoriales avec nos autres médias. Et le deuxième intérêt économique que je vois pour ces groupes, c'est aussi de, finalement, de s'implanter dans des territoires. Il y a certainement aussi des logiques commerciales de ces groupes. Le fait d'avoir un média qui est local et qui est aussi un lieu d'influence localement peut aussi permettre à ces grands groupes industriels, finalement, de faire connaissance avec les personnes qui sont en charge d'attribuer les marchés.
Le nouvel élan des télévisions locales, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et l'invité du Mag'Écho ce samedi 1er février, c'est le directeur général du groupe Bouygues. Bonjour et bienvenue Olivier Roussa.
Bonjour Alexandra.
Quatre secteurs d'activité chez Bouygues, le plus petit dans votre chiffre d'affaires, mais pas le moins connu, c'est le groupe TF1. Alors parlons de cette nouvelle numérotation sur la télécommande. TF1, ça change pas, c'est le premier bouton. Mais LCI, la chaîne d'info, passe du canal 26 au canal 15, dans ce qu'on appelle le bloc des chaînes info. Olivier Roussa, on va se parler franchement, pour votre groupe, cette réorganisation, c'est une chance.
C'est une bonne nouvelle parce qu'elle permet effectivement à la totalité des téléspectateurs de pouvoir accéder aux chaînes d'info simplement avec P+, P-, ce qui est simple, sans avoir à taper deux chiffres l'un derrière les autres pour aller chercher le canal 26. Et donc, on regroupe, on était très fanat du regroupement de ce canal d'information, donc c'est une très très bonne nouvelle.
Oui.
Et nous avons le 15, par ailleurs.
Qui était celui de BFM. Voilà.
C'est une deuxième bonne nouvelle.
Et eux ne se disent pas les plus heureux. Alors, TF1, c'est la première chaîne, la Une, elle est née en janvier 75, il y a 50 ans. Aujourd'hui, TF1 est toujours leader, mais la concurrence est rude. Et c'est peut-être pas les TV locales, c'est plutôt les plateformes de streaming, Netflix, Amazon Prime, Disney+, YouTube. Vous avez fait le pari d'une plateforme de streaming gratuite financée par la pub, ça s'appelle TF1+, c'était il y a un an. Donc c'est le moment de vous demander si les téléspectateurs, les annonceurs vous suivent.
TF1+, c'est un grand succès. C'est une approche un peu différente de celle qu'on avait imaginée au début quand on avait travaillé sur le projet de rapprochement avec M6. Là, cette fois-ci, on a fait une plateforme gratuite avec des contenus qui sont des contenus que les téléspectateurs viennent revoir, avec une partie pour l'essentiel des choses que l'on peut retrouver dans le groupe TF1. Et c'est finalement une plateforme dans laquelle on a 33 millions d'utilisateurs qui sont venus. On a eu une croissance de nos revenus de 40%. Elle s'impose progressivement. Elle s'étend au-delà de sa diffusion sur la France. On est diffusé en Suisse, en Belgique. La volonté, c'est d'en faire une plateforme francophone, du monde francophone. Et les premiers résultats sont vraiment excellents. Donc c'est plutôt réussi.
Et la publicité, parce que c'est ça qui finance la télévision privée, évidemment. La publicité sur le linéaire, est-ce qu'elle se paye plus cher sur le digital ?
Alors, elle se paye plus cher sur le digital. Et tout l'enjeu que nous avons, parce que vous l'avez dit, la concurrence importante dans les publicités télévisuelles, c'est la concurrence de YouTube. C'était un des sujets que nous avions défendu à l'autorité de concurrence en 2022. Et donc, tout l'enjeu de TF1+, c'est de prendre une partie des budgets annonceurs qui se prennent pratiquement au niveau européen et qui descendent directement sur YouTube, et donc d'aller chercher une partie de ces budgets qui sont des budgets qui sont plus rentable parce qu'on est capable d'offrir une publicité qui est beaucoup plus ciblée, qui permet d'aller chercher directement telle ou telle personne en fonction de... On sait qui est derrière la télévision à ce moment-là.
Oui, c'est fou. C'est une publicité vraiment...
plus personnalisée.
Plus personnalisée. Alors, dans le périmètre du groupe Bouygues, j'avance parce que vous êtes quand même un conglomérat. Hein, c'est... y a évidemment la construction... Commençons par regarder l'immobilier. Depuis 2 ans, on a assisté à la chute des permis de construire, on a assisté aux suppressions d'emplois. Mais maintenant, la patronne du promoteur Nexity, Véronique Bédague, elle dit « on sort d'une crise monstrueuse ». Est-ce que vous aussi, vous voyez la lumière au bout du tunnel ?
Ce que l'on croit, c'est que nous avons touché le fond de la piscine, c'est-à-dire que nous avons arrêté de baisser. En revanche, la reprise, elle demande de la confiance, elle demande des taux d'intérêt qui baissent, et ça, c'est le cas.
C'était
mais elle demande
semaine.
De la confiance et de la stabilité parce que les acheteurs, quand vous avez un acheteur, un primo-accédant qui vient faire un achat de logement, c'est un achat qui va l'engager pendant 15 ou 20 ans, il a besoin d'avoir confiance dans le futur. Il se trouve qu'on avait eu, au mois de mai dernier, on avait le sentiment d'avoir touché l'inflexion et d'avoir un marché qui s'apprêtait à repartir. Et puis on a eu toute notre période d'instabilité sur le second semestre, entre tous nos événements politiques qui ne donnent quand même pas énormément de confiance aux différents acheteurs.
Ça vous a coûté cher la dissolution ?
Pour la dissolution, elle a par exemple... Non, en gros, ce qu'elle a occasionné, c'est que nos réservations étaient reparties à partir du mois de mai. À partir du mois de juin, on a eu à nouveau une élévation du taux de désistement. Et puis, ça a redémarré assez doucement. Après, vous avez vu toutes les annonces de « on va augmenter les impôts dans tous les sens ». Donc, ça, ce sont des choses qui créent de la défiance... Enfin, en tout cas, qui ne rassurent pas le primo-accédant, qui ne sait pas bien où il va aller. Et donc, ça, c'est un sujet qui est quand même... qui est gênant. Donc là, on a besoin de stabilité parce que cette stabilité donne de la confiance et elle permet de faire repartir. Et j'espère qu'on a trouvé le point d'inflexion, enfin qu'on est bien en bas de la piscine.
Alors là, on a un budget qui sera voté, en tout cas on a un texte qui va être voté lundi, on verra. Mais mercredi, il peut y avoir une censure ?
Ben, j'espère que non, mais effectivement, c'est le risque.
C'est vrai, je vous espérais que non. Il y a eu un appel hein, des syndicats et du patronat, de quasi tous les syndicats sauf la CGT et du patronat, pour dire, c'était en mi-décembre, pour dire il nous faut de la stabilité, appel aux politiques.
Ben, il est clair que sur l'environnement économique... On l'avait eu à l'époque quand on avait vu, si vous regardez par exemple ce qu'avait eu TF1, fin d'année dernière, à partir du moment où on a eu cet épisode de censure, vous avez tout un tas d'annonceurs qui sont devenus plus frileux. C'est quelque chose qui donne, c'est de l'instabilité. L'économie, elle a besoin de stabilité et de confiance. C'est ça qui l'a fait fonctionner correctement. Alors, additionner à cela le fait qu'on rentre dans un monde qui est quand même assez différent de ce qu'il était précédemment par ailleurs.
Alors, on va y venir à cette nouvelle donne avec Donald Trump, mais du coup, je vous pose la question, puisqu'on est sur l'actualité française et l'instabilité, on a entendu beaucoup de voix de patrons en colère, c'était le débat il y a quelques minutes avec les journalistes. Est-ce que vous, comme Bernard Arnault, vous êtes un patron en colère ?
Nous, nos différentes sociétés travaillent localement, c'est-à-dire que quand on est en Allemagne, notre concurrence est allemande, quand on est en Belgique, elle est belge. Quand on est en France, elle est essentiellement française. Et donc, on n'a pas le type d'exposition pour avoir un industriel qui exporte des produits. En revanche, et donc avoir ponctuellement, et j'espère que le ponctuel, parce qu'on vous a expliqué que c'était simplement une année, et c'est effectivement...
Alors, je vous vois sourire, vous n'y croyez pas.
Écoutez, c'est rare qu'en France, on arrive à tenir ce genre de promesses. Mais imaginons que ce soit le cas. Ce qui est gênant, finalement, c'est quoi ? Pour un groupe comme le nôtre... Le delta, c'est un peu plus d'une centaine de millions d'euros probablement qu'il faut. On va voir, on n'est pas au bout de l'histoire, mais c'est minimum une centaine de millions d'euros supplémentaires que nous devrons donner. Le vrai sujet, c'est de se dire, finalement, qu'est-ce qui se passe du côté des dépenses pour faire en sorte qu'effectivement ce soit ponctuel ? Est-ce qu'effectivement, il y a des vrais efforts qui nous permettent de nous dire, voilà, comme on a beaucoup diminué les dépenses, on va pouvoir revenir à l'impôt tel qu'il était. Et c'est pas facile à croire.
Mais d'accord, donc j'entends pas de la colère cependant.
Non.
C'est bien qu'ils s'expriment, les grands patrons. Là, parce que là, vraiment, on a Michelin, on a Bernard Arnault.
Nous,
vous êtes le patron du groupe Bouygues.
Un groupe qui s'exprime assez peu. On n'a pas d'opinion politique à avoir ni à donner. C'est pas trop notre pratique de nous exprimer d'une façon générale.
Mais là, est-ce qu'il y a un moment où il faut se faire entendre ?
Je pense que ce qui est gênant, vraiment, c'est le fait de dire, écoutez, on peut faire des efforts, il faut que tout le monde fasse des efforts. C'est ça le sujet essentiel, il me semble.
Et là, vous pensez aux dépenses. Allez, l'arrivée de Donald Trump, on en parle de cette nouvelle donne, puisque vous, vous êtes un groupe international.
On a aussi beaucoup d'activités aux États-Unis, on fait 4 milliards d'euros aux États-Unis.
Avec votre activité de construction, c'est ça? Vous faites quoi?
Construction, on fait des routes, on fait notamment beaucoup de choses avec des fabrications d'usines avec Equans, et quelques grands chantiers avec Bouygues Construction.
Alors, Donald Trump, comme disait ma consoeur du Financial Times, prend des décrets, fait bouger les choses très très vite. Aujourd'hui, c'est la montée, par exemple, des droits de douane sur le Mexique et le Canada, et la Chine, 10% pour la Chine. Alors, vous n'exportez pas, vous venez de le dire, mais est-ce que quand même il y a quelque chose qui change dans votre manière de travailler?
De toute façon, on a quand même des sujets sur lesquels, quand vous faites un grand tunnel aux États-Unis, on utilise des machines qu'on achète en Allemagne, qui sont faites par Eric Knecht. Ça coûte à peu près 60 millions d'euros un tunnelier. Si on lui applique un droit de douane de 25%, il ne nous coûte pas 60, il nous coûte 60 plus 12,5, donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas neutre, que nous devrons pouvoir répercuter dans nos contrats. La nouvelle donne qui est en train de se produire, c'est que dans nos contrats, nous avions des choses sur les clauses de change. On avait prévu le fait que les monnaies puissent changer. On a réintroduit des clauses d'inflation avec ce qui s'est passé après le Covid. Et maintenant, il va falloir introduire des clauses relatives aux droits de douane, puisque le vrai problème que nous avons avec ce qui va se passer aux États-Unis, c'est que dans le monde entier, il va y avoir des barrières douanières. Et donc, le libre-échange qu'on a connu pendant de nombreuses années où tout était fluide, va cesser d'être fluide, tout simplement. Et donc, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'on est en train de mettre des barrières un peu partout et plutôt ralentir tous les flux qu'on pouvait faire, qui étaient assez simples, en fait.
Et pour vous, pour le consommateur, en fait, ça veut dire quoi au bout du bout? Est-ce que ça veut dire moins de contrats pour vous? Est-ce que ça veut dire des produits plus chers ou des services plus chers pour le consommateur?
À un moment ou un autre, ça remonte le prix de ce que l'on réalise, mécaniquement, puisqu'ils nous coûteront plus cher.
Olivier Roussat, quand l'Europe dit le décrochage économique, ça n'est pas inéluctable, on va mettre en place une nouvelle boussole pour la compétitivité des entreprises, choc de simplification administrative, assouplissement des règles de concurrence. Alors, je vous vois sourire. Vous y croyez? Non.
Ah non, mais vous avez vu ce qu'ils ont inventé avec la CSRD?
Alors, dites...
Ah, la CSRD,
alors, ou alors,
c'est...
je le dis.
Non, bah, allez-y,
non, dites-le. Non, allez, dites-le vous.
Alors,
dites,
la CSRD, c'est une directive européenne qui a été traduite dans le droit français, qui fait qu'on va publier pour la première fois cette année des séries d'indicateurs qui nous permettent de regarder comment on tient compte du changement climatique, comment l'entreprise s'adapte à l'environnement et comment l'environnement rétroagit sur l'entreprise. Ce qu'on appelle une matrice de double matérialité. On nous fait suivre pour ça, on nous a proposé 1100 indicateurs, on en a, nous, retenu 700, que l'on doit publier sur tout ce que l'on fait.
Alors, vous avez retenu 700 parce que vous avez vraiment beaucoup d'activités. La plupart des entreprises, c'est pas 700 quand même.
C'est plusieurs centaines. Et donc, au final, on se retrouve à devoir décrire... Enfin, en gros, l'esprit de cette directive, c'est de s'assurer que nous faisons ce qu'il faut pour, d'une part, aller réduire notre empreinte carbone et, d'autre part, nous adapter à ce changement. Est-ce que vous croyez vraiment qu'une entreprise a besoin de la Commission européenne pour voir ce qu'elle doit faire pour s'adapter au changement économique dans lequel elle est?
Alors là, Olivier Roussat, est-ce que sans la Commission européenne et les lois, les entreprises se seraient préoccupées d'environnement?
Mais oui, pour une raison très simple, parce que l'environnement, vous avez dans les parties prenantes qui mettent une pression importante sur les entreprises, la première d'entre elles, ce sont nos collaborateurs. Nos jeunes collaborateurs, ils veulent que l'on ait une réduction de notre empreinte carbone. Si on a pris des engagements vis-à-vis du SBTI, qui est un organisme international.
Mais là, vous êtes contrôlé. Et donc, la CSRD, il va y avoir un assouplissement.
C'est un énorme truc bureaucratique qui n'apporte rien. Mais vraiment rien. Mais le pire n'est pas la CSRD, le pire, c'est la CS3D, qui est le devoir de vigilance. Alors là, pour le coup...
C'est pour bien traiter ses sous-traitants.
Oui, mais dans l'esprit, tout est... Mais c'est extrêmement... Comment dire? C'est très sympathique comme approche, c'est très logique, on peut tout à fait comprendre tout ça. Mais il y a juste des choses qui ne sont pas possibles, pas réalistes.
Olivier Roussat, le directeur général du groupe Bouygues, merci d'avoir été l'invité d'On n'arrête pas l'écho.
Merci beaucoup.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Sandrine Foulon, Flore vous a écrit, c'est une jeune graphiste, elle vient d'être embauchée, elle est ravie. Mais la douche froide, c'est que dans son entreprise, les nouveaux venus n'ont plus droit au télétravail, alors que c'est toujours le cas pour les anciens. Est-ce légal? Vous demande
Flore. A priori, non, Flore, il n'y a pas de clause du grand-père pour le télétravail. On ne peut pas changer les règles juste pour les nouveaux entrants et laisser cet avantage aux anciens. Bien sûr, une entreprise peut décider que pendant une période donnée, surtout au début, quand on découvre un service, il faille impérativement venir au bureau. C'est même plutôt une bonne idée pour les nouveaux, les stagiaires ou les alternants qu'il faut accompagner. Mais ensuite, si on occupe un poste éligible au télétravail, il ne peut pas y avoir de discrimination. C'est ce que confirme l'avocate Anaïs Hédé du cabinet Taylor Wissing. Le fait d'être un nouvel entrant n'est pas une raison objective suffisante pour ne pas en bénéficier sur le long terme. Et là, un salarié pourrait saisir les prud'hommes pour soulever une inégalité de traitement.
On a bien vu avec Donald Trump, qui vient d'interdire le télétravail aux agents fédéraux, que les règles se durcissent. Il y a des retours en arrière, Sandrine. Est-ce que c'est vrai chez nous aussi ?
L'entreprise de Flore n'est pas forcément un bon exemple, mais en France, on est plutôt dans une période de normalisation après le Covid. La pratique est mieux encadrée, les directions ont tendance à réduire le nombre de jours de télétravail autorisés, pas à tout supprimer. Aux États-Unis, la situation n'est pas comparable, le droit du travail est moins protecteur, et surtout, la moitié des télétravailleurs sont à 100% à distance. Pour Trump, cette interdiction, c'est une façon très assumée d'organiser un vaste plan social. En France, il n'y a que 5% des salariés qui sont à la maison 5 jours sur 5 parmi les 6 millions de télétravailleurs. L'enjeu, chez nous, ce serait davantage de démocratiser la pratique, massivement réservée aux cadres. Plus de 2 millions de salariés pourraient télétravailler. Mais cette modalité leur est aujourd'hui refusée. Ce sont plutôt des employés, des jeunes, des femmes et des salariés en CDD.
Et vous vouliez terminer cette chronique, Sandrine, par un rectificatif sur les entrepreneurs, leurs vélos et leurs impôts.
Oui, il y a 15 jours, je me suis pris les pieds dans le tapis. J'ai présenté notre auditeur, David, comme un auto-entrepreneur, alors qu'il est entrepreneur en solo. C'est pas du tout pareil. Comme un artisan, David tient une comptabilité. Il a le droit d'amortir l'achat de son vélo électrique pour ses déplacements de boulot. Ce n'est pas le cas des auto-entrepreneurs. Eux, ils bénéficient de l'abattement forfaitaire pour calculer leurs bénéfices imposables et déduire leurs frais professionnels. Merci donc à Sophie, Marc et Robert, nos auditeurs vigilants, d'avoir relevé cette boulette.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.